Ça, c'est des mandrins, tu vois, ou que tu serres à la clé. Mais ça c'est vraiment pas extraordinaire. Ça se rencontre sur plein de machines. Tu serres et tu peux régler dans les deux sens, qui fait que, effectivement, si tu remets les mêmes pièces aux mêmes endroits, t'as toujours le même son. Toujours du gras, du gras, du gras.
Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui. De passer un moment à partager son univers.
Ça fait beaucoup de chaleur. D'où le fait qu'il faut refroidir. Mais que ces petits tortillons-là, ils peuvent être très très chauds. Et c'est vrai que si tu t'en prends sur le visage ou ailleurs, c'est vraiment pas super. Voilà. Et puis, masque de soudure, ça obligatoire, parce que du coup, ça brûle les yeux. T'avais des vieux masques comme ça. Ça, c'est ma petite enclume de Maréchal Ferrand que j'adore, qui est mon enclume d'atelier, parce qu'on a quand même besoin d'une enclume pour redresser des pièces, etc. Parce qu'il y a cette idée aussi que plus on a de masse, plus ça donne une possibilité de déformer le métal qui vient dessus. Quand on tape sur quelque chose de creux ou qu'on tape sur une masse, on voit que la pièce s'enfonce de deux fois au moins ou de trois fois selon en fait ce qu'il y a dessous. Moi, je dis tout le temps que je fais de la ferronnerie de bâtiment parce que ce que les gens comprennent dans la ferronnerie d'art, ça ne me plaît pas en général. Il y a quelque chose aussi de dévaloriser dans le métier du bâtiment et de valoriser dans les métiers d'art d'une manière qui, en fait, moi, je trouve est complètement injuste. Et là, par exemple, je fais de la maçonnerie qui est vraiment la construction par excellence. C'est d'une subtilité et d'une finesse vraiment que où je trouve que enfin voilà de plus en plus en fait cette distinction j'ai pas du tout envie d'y participer donc c'est très bien d'être dans le bâtiment parce qu'il y a de la création dès que tu fais une pièce sur mesure il y a de la création alors c'est vrai que dès qu'il y a de la forge voilà vu que en fait maintenant c'est plus du tout automatique d'être ferronnier et forgeron en même temps la forge tout de suite ça a des grandes lettres de noblesse dans l'esprit des gens et pourquoi pas et c'est vrai que allez, moi aussi, je le valorise quand même vachement. Mais en même temps, quelqu'un qui fait du sur-mesure, qui a des techniques qu'il a apprises de quelqu'un d'autre, qui n'appartiennent qu'à lui, qui lui permettent d'être précis au millimètre sur des choses, je trouve que c'est largement autant à valoriser. Mais voilà, ça, c'est mon avis. Là, je dois réduire leur taille. Il y a quelque chose où j'ai déjà eu cette histoire de ferronnerie. Ah, d'art. Ah, ce truc-là, c'est de l'élitisme, quoi, qui est placé en fait à des endroits qui devraient pas, où ça devrait pas être. C'est chouette d'être reconnu à un moment donné dans son travail, mais si c'est pour être reconnu pour faire partie du « nous » et puis laisser le « e » sur le côté, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je m'appelle Mathilde, j'ai 40 ans, j'habite à Bruxelles depuis 18 ans. J'ai grandi à Ornan, dans un village de Franche-Comté. Quand même, c'est le village de Gustave Courbet et de Vernier, celui qui a inventé le pied à coulisses. Donc quand même, c'était un beau terreau. Et j'étais pas du tout manuelle. Moi, je savais pas planter un clou avant 30 ans, hein. Du coup, vraiment. Hein. Mais par contre, j'avais pas peur de me faire mal. J'avais quelque chose d'implication physique. très, très casse-cou, très agile. Je voulais un peu essayer toujours les limites de mon corps. Je me sentais pas très bien dans le rôle de fille. J'ai trouvé quand même très tôt qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. De comment ça se fait que pour certaines activités, voilà, c'est pas moi qu'on convoque, quoi. C'était ça. Mais j'ai été élevée par une femme, avec que des femmes. Et c'est vrai qu'il y avait un petit besoin de quelqu'un de technique à la maison. Alors, je faisais pas grand-chose, mais quand même, il y avait peut-être ce côté-là, quand même. Puis voilà, au début, j'ai fait des études universitaires de linguistique, où j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais ça devait se transformer en doctorat, ça ne l'a pas fait. Et donc, je suis revenue à Bruxelles pour travailler en tant que professeure de français langue étrangère. Il m'a beaucoup manqué du geste. C'est quand je réfléchis en fait à ce que j'aime faire dans la vie, c'est beaucoup lié aux gestes justes, aux mouvements et aux choses comme ça. Après le secondaire, j'ai été pendant un an facteur. J'ai adoré ce travail. Ça a été vraiment un de mes boulots préférés. Je pense que c'était le seul travail que je pouvais tenir en vrai temps plein, 6 jours semaine. Mais parce qu'il y avait aussi beaucoup de gestes, beaucoup de manières de faire des liasses de courrier, de trier, etc. Et donc voilà, c'est ce qui m'a toujours plu. Donc j'ai essayé de partir après dans plutôt le spectacle et l'événementiel. J'ai été rodie, j'ai fait du rigging, donc j'ai tiré de la chaîne dans des plafonds. J'ai fait beaucoup de montage technique et j'avais pas du tout envie d'évoluer là-dedans. Par contre, il y avait vraiment l'aspect physique qui me plaisait, et puis l'aspect construction, déjà. Le fait de monter des structures, de trouver comment on range des choses lourdes, de porter du lourd, etc. Il y avait quelque chose qui me plaisait bien. Et puis, il y avait une formation. Il y a toujours une formation à Bruxelles qui est un peu hors du commun, de ferronnerie, qui dépend de l'école de maréchalerie de Bruxelles, avec des anciens maréchal-ferrants qui se sont éclater la santé, puisque c'est un métier qui fait beaucoup de mal au dos et au reste. Et souvent, les maréchal-ferrants, comme ils savent forger, ils savent souvent souder. Donc, c'est la partie en fait un peu agricole de la ferronnerie. Une partie de réparation aussi des outils, des brouettes, de refaire une soudure, de ce côté un petit peu autonome que peuvent avoir les gens à la campagne pour pouvoir utiliser leur matériel. Alors ça s'appelle un trusquin. C'est des outils de mesure de précision, tu vois, où tu peux te prendre sur un bord pour mesurer. C'est bien pratique. Le maréchal ferrant, c'est celui qui forge et qui cloue les fers à cheval sur les chevaux. Ouais, je vais faire ça. J'ai été formée en ferronnerie par des maréchals. On devrait dire des maréchaux, mais on dit comme c'est non composé, on dit maréchal ferrant. C'est pour dire que moi, j'ai été formée plutôt par des gens qui ont appris sur le tas, qui ont plus une expérience de vie, moi, je trouve un peu plus concrète du travail, etc. Et dans laquelle je me retrouve aussi, quoi. Il y a une super ambiance. Je retrouve quelque chose, justement, de beaucoup moins urbain. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, en plus, c'est une formation qui est très accueillante pour les femmes. C'est son gros point fort. Et qui est vraiment sert à te donner confiance en toi. Dans la formation de ferronnerie, on était un tiers de femmes. Dans ma promotion, on va dire, il y a quand même eu 3 femmes qui se sont professionnalisées. Et je pense à peu près le même nombre d'hommes. Ce que j'ai appris aussi dans ces métiers, c'est que la force physique, c'est une chose, mais en fait, il faut savoir s'en servir. Moi, je m'en fous d'avoir plus ou moins de force que quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que moi. Et c'est pas grave. Si on veut faire ce qu'on aime, il faut déjà sortir de la compétition. Ça serait vachement plus simple si on reconnaît que voilà, il y a des points de faiblesse et puis qu'on fait avec et qu'on compense. Enfin, la vie, quoi. c'est comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, je pense, prêts à sortir de la compétitivité. C'est un métier, la ferronnerie, qui demande beaucoup, beaucoup de compétences. Puisque du coup, tu dois vendre des objets que tu fabriques sur mesure. Il faut avoir un rapport avec les gens qui est chouette. Il faut être professionnel, mais en même temps, il faut être sympa. Il faut quand même avoir un truc de secrétariat, de comptabilité, etc. Il faut du savoir-faire. Il faut pouvoir porter lourd. Forcément, dans toutes ces compétences, il y en a que tu n'as pas. ben voilà, c'est comment on arrive à faire avec ce qu'on a, de toute façon, quoi. Il y a beaucoup de choses qui viennent, je pense aussi, bah, de l'éducation féminine qu'on a. On ne sait pas utiliser notre corps et on ne sait pas occuper l'espace avec notre corps. Il y avait une féministe qui parlait d'un exemple, moi, qui m'a toujours hyper marquée quand j'étais petite et qui m'énervait très fort. C'était comment les garçons et les filles lancent des cailloux. Quand c'est une fille qui lance un caillou, elle fait un petit geste de poignet comme ça, et puis elle lance comme ça en n'osant pas trop bouger. Et puis le garçon, il prend son élan et il tire son bras, il recule en arrière, il occupe tout l'espace et il lance. Et du coup, il lance hyper loin. Mais dans ce mouvement-là, c'est vraiment juste la manière dont on a confiance dans son corps et dont on occupe l'espace. C'est pas vraiment la force qu'on a dans son bras pour lancer un caillou. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de ça. Le truc qui me manque le plus, c'est pas la force, c'est la taille. Si j'avais 10 cm de plus, ce serait vraiment super. Mais c'est pas le cas. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt ça. Mais le reste, franchement, il faut vraiment aimer ça. Et je pense qu'il y a des femmes qui aiment vraiment mobiliser leur corps et donner le maximum de force. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de raison. C'est quand même un travail difficile, hein. Je vais quand même pas dire qu'il suffit d'aimer et puis c'est bon, quoi. C'est quand même un métier qui demande beaucoup d'implication. C'est qu'en fait, ça demande beaucoup d'espace, beaucoup de machines. Donc déjà, on revient à des questions de comment faire une entreprise sans patrimoine. Ça, c'est encore c'est une autre question. Et que c'est froid, ça fait mal. C'est une matière qui n'est pas douce, qui n'est pas forcément accueillante au premier abord. Une journée type, c'est une mise en route, quoi, de son corps, de la matière, qui fait que c'est comme si on se réchauffe petit à petit. Et puis au bout d'un moment, voilà, là ça roule et donc on arrive à trouver un rythme, à ce que ce soit un peu chaleureux de travailler. Mais tu peux quand même passer voilà, 3 heures à faire de la disqueuse, donc du coup tu respires vraiment beaucoup de crasse, il c'est tout noir. C'est quand même un mode de vie qui est quand même ardu, quoi. Donc il faut une vraie satisfaction dans le travail. Il faut trouver un vrai plaisir dans ce qu'on fait, sinon c'est trop dur. Et puis, je pense que quand on commence la ferronnerie, on a quand même souvent des idées d'esthétique et qu'en fait, la réalité de la matière fait réduire ces idées d'esthétique quand même assez fort. Il y a énormément de possibilités et en même temps, c'est très difficile. Il y a beaucoup de choses à savoir sur en fait aussi les histoires de portance, la résistance, parce que plus on met du lourd, ben plus c'est lourd. Il y a un travail d'ingénieur presque derrière, mais qu'on n'a pas. On doit inventer, on doit trouver beaucoup de solutions. C'est très prenant. Après, moi, j'aime vraiment bien me prendre la tête, donc ça tombe bien. Je ne pense plus du tout la distinction travail manuel et travail intellectuel. Je mobilise mon cerveau dans ce que je fais et ça demande énormément de connaissances, de mémoire, d'analyse, de compréhension rapide des situations. Il y a une partie manuelle du geste, mais il y a quand même une grande partie intellectuelle avant de n'être que dans le geste, quoi. Le geste, c'est vraiment une opération, mais ce n'est pas l'essentiel forcément du travail. Je trouve qu'entre manuel intellectuel et homme-femme, on a cette espèce de double classification qui, du coup, n'a de sens que politique. C'est une lutte de classe et puis c'est une lutte de genre. Après, tu as des pays comme l'Allemagne, où l'artisanat, c'est pas du tout pris à la légère. C'est 5 ans d'école, c'est un apprentissage de je sais pas combien d'années pour pouvoir avoir une certification pour travailler. C'est pas pris à la légère, mais parce que ça doit pas être pris à la légère. Voilà, du coup, Bruxelles, c'est tellement n'importe quoi que ça laisse beaucoup de liberté aussi. Mais tu peux pendre des tonnes de métal au-dessus de la tête des gens en sachant pas souder, quoi. Je veux dire, c'est aussi un peu bizarre. J'exagère, mais un peu. Il faut dégenrer les activités le plus possible, depuis le début. la séparation des activités, je pense notamment voilà, au tissu, à la couture, à tout ça, vient de tout un mode de vie qui n'a plus lieu maintenant. Il y aurait plein de choses à repenser, quoi. Pour que les gens puissent faire ce qu'ils aiment faire, et pour les hommes y compris, hein. C'est vrai que les grandes villes sont aussi un espace de liberté pour ça. Après, voilà, moi j'ai aussi choisi la ferronnerie parce que j'aime vraiment cette matière, mais je suis beaucoup seule dans mon atelier. Moi, travailler dans des équipes d'hommes, par exemple, je l'ai déjà fait dans d'autres boulots, et je le referai pas forcément au quotidien. Je crois qu'il y a une fatigue quand même de ça. Ça prend du temps pour faire sa place. On est, enfin voilà, c'est le mode d'apprentissage, l'aspect un peu grégaire comme ça. De... Et moi, je trouve que c'est un peu lourd. C'est sûr, quoi. J'aurais pas envie d'être là-dedans tout le temps. Et c'est vrai que des fois, je le sens quand je vais chez des fournisseurs et que je dois me repositionner parce que je vois qu'on me croit pas, on me prend pas au sérieux, etc. Donc c'est, ouais, c'est quand même fatigant. Hein. Je vais pas dire que c'est hyper facile tout le temps. Il y a ce réflexe de un peu comme je suis une femme, je sais pas. Donc, il y a quelque chose à désamorcer assez rapidement. C'est vraiment très inquiétant de voir qu'il y a plein d'hommes qui affirment des choses, techniquement. Et franchement, c'est n'importe quoi. Ils affirment parce qu'ils ont confiance et qu'ils veulent se positionner socialement. De dire « je sais ». Si je dis simplement que si je suis habillée en habit de ville et que du coup je dis que je fais de la ferronnerie, il y a quelque chose qui ne matche pas. Il faut que soit les gens voient ce que je fais, soit que je dise quelque chose qui tout d'un coup leur fait changer d'univers. C'est ce truc de catégorisation immédiate. On ne peut pas non plus en vouloir complètement aux gens hein, de faire ça, mais il y a quelque chose où oui, moi on ne me croit pas. Et j'ai vu... J'ai fait une bête page internet, d'ailleurs, qui n'est pas du tout référencée. Mais bon, mais je vois à quel point ça change, qu'on voit ce que je fais. Et qu'on me dise « Ah, ah oui, c'est ça !» Ben oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'avais dit. Quand je dis escalier, je ne fais, fais pas juste un pommeau pour la fin de la barre d'escalier. C'est, je fais un escalier. Mais tant que les gens ne voient pas, il y a quelque chose qui... Ils n'y croient pas, ils ne l'associent pas. S'il y a des petites filles qui voient qu'il y a une femme qui travaille, que ça leur donne envie et que surtout elles voient que ça existe. Donc ça, c'est sûr que moi, je crois quand même au fait qu'il y a des choses que j'ai pas pensé faire quand j'étais petite parce que juste j'ai jamais vu que ça existait. Donc je crois quand même qu'un des enjeux aussi, c'est d'être quand même plus autonome en général, avoir des premières étapes de raisonnement et des premières tentatives pour pouvoir résoudre des problèmes dans son quotidien et tout ça, ça je pense que c'est pas mal, quoi, de pas devoir toujours appeler quelqu'un. Je voudrais bien contribuer à ça, que les gens s'autonomisent plus et se fassent moins avoir aussi, en général. Et les femmes y compris, de leur montrer qu'en fait, c'est pas dur. Elles font des trucs vachement plus compliqués. J'ai déjà dit à ma... Par exemple, à ma mère, à plein de gens qui pensent qu'elles ne savent pas faire. C'est vraiment une représentation de « tu ne peux pas le faire ». Sinon, tu as tout ce qu'il faut, quoi. Je ne sais plus à quelle distance j'avais mis ce trou, mais il faut le refaire. Donc, tu vois, ça, c'est des trous taraudés où on peut visser dedans. Et j'avais fait à 35, sans doute. L'acier, c'est un mélange de fer et de carbone. Et donc, moi, je travaille avec ça. À 1400, 1600 degrés, ça fond. Et puis, là, donc, toute l'idée, c'est de mettre en fusion, soit par la soudure, soit alors de chauffer, donc pour en fait attendrir et ramollir la matière à la forge, en gros. C'est vraiment difficile de résumer et les propriétés de l'acier et en fait son utilisation en général. Mais en tout cas, à mon échelle, la ferronnerie, c'est faire un peu deux types de structures portantes ou bien des grilles qui vont faire des portails, des portes, etc. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est que selon les techniques d'assemblage qu'on utilise, l'esthétique va complètement changer. Donc, il y a évidemment la forge où là, le fait de faire chauffer le métal, on peut lui donner des formes très courbées, très sensuelles, etc., que je trouve toujours aussi beau. Mais aussi, en simplement coupant, assemblant de la matière, avec les techniques de rivetage, de boulonnage, du fait de percer taraudé, par exemple, on peut obtenir des structures plus géométriques, par exemple, et toute une esthétique différente. Là, je suis en train de développer un système de poêle à bois. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on revient à cette idée de combustible et aussi quand même d'économie d'énergie. Et donc ça, c'est quand même intéressant. C'est quelque part un peu low-tech aussi. Ouais, de ralentir, quoi. Et de refaire des choses qui ont du sens et qui durent.
Mais en tout cas, pour frapper des... Donc ça, c'est juste pour faire un pré-trou pour pouvoir guider la mèche quand elle va percer.
Là où il y a aussi un petit problème, c'est qu'une aciérie, donc pour fabriquer l'acier, c'est une consommation d'électricité de dingue. Mais vraiment de dingue. D'où le fait que c'est absolument indispensable, je trouve, que d'utiliser le métal pour faire des choses durables, très très durables. Ce qui n'est pas trop le cas, en fait. Voilà, c'est que maintenant, on fait beaucoup de choses en tube, c'est de la tôle pliée et soudée, et ben du coup, ça ne va pas tenir le temps d'une vie. Donc, c'est de l'électricité qui est quand même foutue en l'air pour faire du demi-durable, quoi.
La même précision. Voilà, c'est ça tout l'enjeu.
La forge aussi, c'est vraiment... c'est aussi dans notre rythme de travail. On sent qu'aussi ça vient d'une société plus lente, où on fait les choses plus lentement, et où du coup l'objet a quand même une autre valeur que justement du jetable. Hein, parce qu'on revient un peu à cette notion-là. Si tu fais une hache... Là, tu vas la garder trois fois le temps d'une vie et que ça va prendre quand même... Faire une hache, il faut être plusieurs personnes pour frapper. Et puis, c'est des objets voilà, qui ont une valeur réelle. La forge, c'est de la houille, c'est du charbon de forge. Donc, ce qui est complètement interdit pour l'environnement, mais qu'on utilise énormément quand même, parce que c'est un excellent combustible fossile. Quand on apporte de l'oxygène dessus, de la même manière que quand on souffle sur du feu, le charbon peut monter à très haute température. Donc en général, il y a des souffleries soit manuelles, soit électriques maintenant, qui sont des petits ventilateurs. En gros, c'est un gros sèche-cheveux. On met le fer dedans et le fer change de couleur et devient de plus en plus malléable. Ça devient comme de la plasticine. Après, voilà, faut savoir se servir d'un marteau et d'une enclume et c'est parti. Je peux te dire que je m'appelle laborier, mais c'est juste que peut-être que je profite un peu de cet avantage que justement, on est très peu de femmes en ferronnerie. Et donc, du coup, il n'y a pas 30 Mathilde. Mais voilà, mais tu peux quand même mettre Mathilde laborier, si tu veux. C'est IER à la fin.
Mathilde Laborier, du fer dans les mains. C'était un podcast produit par Axel Magazine. Réalisation, montage, mixage, Corinne Ricuor. Participation éditoriale, Sabine Panet. Générique, Marielle Van Kamp. extrait musical, Fade It Now, Keyframe Audio. Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be. Merci à Mathilde pour la rencontre.